Alors, donc on va commencer par notre quatrième cours sur le chapitre 29. Dans le chapitre 29, on parle d'un thème bien spécifique. Une personne qui comprend que les choses ne vont pas bien, mais il n'arrive pas concrètement à changer son comportement parce que il n'en a rien à faire. Ça veut dire qu'il arrive comme ça des situations dans notre vie dans lesquelles je sais que ce qui se passe n'est pas bien, mais j'en ai rien à faire. C'est-à-dire qu'au fond de moi, ça ne me dérange plus. Dans ce cas-là, on avait amené le mot du Zohar qui avait dit un mot très dur. Il avait dit un morceau de bois. Quand le feu ne prend pas, qu'est-ce qu'il faut faire?
On le casse.
Il faut le casser. Ça, attention, ça prend avec des pincettes, mais ça veut dire que des fois, la seule façon de parler à son Yitzhara, comme on va le voir aujourd'hui, c'est de monter au créneau, d'être plus strict, d'être plus fort avec son Yitzhara. Et donc on a expliqué longuement le cours d'avant encore. On a expliqué longuement comment il faut faire un bilan pour voir ce qui se passe chez nous à l'intérieur, pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. On a parlé longuement dessus. On a parlé aussi que quand on fait un bilan, on voit que même les rêves qu'on fait, quelque part, finalement, on rêve que de ce qu'on a pensé pendant la journée ou de ce qu'on a au fond de nous. Donc ça même, c'est déjà quelque chose de très important qui montre qu'on est à l'intérieur. Donc on a beaucoup, beaucoup de travail. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Je suis à la page 48. Vehine, au milieu de la page. Vehine, l'étude du premier Adam. Vehine, kol mashiyar ibinyanim elu marshavto. Plus une personne va réfléchir à tout ce qu'on a expliqué, mais marshavto dans sa pensée. Ça veut dire qu'on ne parle pas ici maintenant de lire des livres. Vous comprenez? Le but du chapitre 29, c'est pas il dit bon, tu vas lire le chapitre 29, ta vie va changer. C'est pas comme ça que ça se passe. À un moment, il faut fermer le livre, il faut mettre de côté le livre, il dit, bon, en quoi ça me parle maintenant à moi? Mais marche-toi dans ma pensée. Et ça, la vérité, c'est le plus dur. C'est le plus dur parce que très souvent, on s'échappe. Vous savez, on va lire un livre, on va parler avec quelqu'un, etc. Mais jamais je prends le temps de réfléchir, moi, qu'est-ce que je pense, moi, de ma situation. Vous suivez? C'est-à-dire qu'on est capable de parler à tout le monde, de parler à sa femme, de parler à sa mère, de parler à sa sœur, de parler à son père, de parler à qui tu veux. Mais moi, de prendre quelques instants de réfléchir, moi, dans ma chambre, sans parler à personne, de dire qu'est-ce que je pense de la situation, c'est pas forcément qu'on le fait. Des fois, on prend beaucoup de temps avant de le faire. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Plus une personne va réfléchir à ça, le gambe yuno besfarim, et quand aussi il va étudier dans les livres, liot libo nishbar bikirbo. Et qu'à un moment, c'est pas pour la vie de tous les jours qu'on est comme ça. Mais de temps en temps, quand on a expliqué, il faut arriver à un cœur brisé. Ça veut dire comprendre qu'il faut faire tes chouas. Et alors, veniv ze be'enav nim as katou betachlit amius. Voulum es chayav mamash. Are basé me maes ou me vaza sitra ra. Moi, je peux y aller. Enfin, voilà. Ça, je voulais arriver. Il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, quand on sent qu'on n'arrive pas à décoller, quand on sent qu'on a un blocage, c'est parce qu'on a un mal qui est au fond de nous. Et de la même manière que quand tu as un mal, tu as un mal avec qui tu peux discuter. Tu as des gens qui veulent t'embêter, mais tu peux discuter avec eux. Tu peux dire, écoute, pose ton arme, viens, on discute maintenant. Mais tu as des gens avec qui tu peux pas discuter. Tu as un mal avec lequel tu peux pas discuter. La seule façon, c'est quoi? C'est le mettre par terre. Tant qu'il est pas par terre, tu seras pas tranquille. Alors c'est la même chose. On a en nous des parties mauvaises ou des parties pas bonnes, mais qu'on peut régler avec le temps. Ça veut dire qu'on peut essayer de les mettre de côté, de les repousser, de dire bon, c'est pas grave, on va utiliser le bon côté, on verra ça plus tard. Mais il y a des aspects en nous que tant que tu les as pas enlevés, ça bougera pas. Et un de ces aspects, c'est quoi? C'est l'orgueil. On a parlé longuement dessus la semaine dernière. L'orgueil. L'orgueil peut tuer quelqu'un. Peut prendre une personne qui est d'un plus haut niveau, qui est une personne vraiment extraordinaire, et l'orgueil peut venir, et elle peut te détruire une personne. Bonsoir. Peut te détruire une personne. Et c'est là que vient le chapitre 29 et qui te dit, quand la personne va réfléchir dans son cœur, il va arriver à une situation dans laquelle il va casser l'orgueil qui est à l'intérieur. Il va réfléchir à ce qui ne va pas et il va casser l'orgueil qui est en lui. Et si j'ai réussi à casser l'orgueil qui est en moi, d'accord, le mettre par terre et arriver à une situation dans laquelle je réussis à comprendre qu'il y a un problème, j'ai tout gagné. Comme il y a, vous savez,
tu peux changer sa nature.
Non, j'ai pas dit ça. On peut pas changer sa nature.
Il est comme ça, ce type-là.
Non, on peut pas changer sa nature. C'est-à-dire comme ça. Il y a une situation dans laquelle.
Naturel,
je vais vous donner un exemple, monsieur Benita. Imaginez par exemple quelqu'un, il a une affaire. Et l'affaire, elle marche pas. Il sait que l'affaire ne marche pas. Il sait qu'il y a un problème. et il rentre chez lui le soir, et il dort tranquillement. Il se lève le matin, tranquillement. Il va dans l'affaire ne marche pas. Et ça dure comme ça, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois.
Il y a un problème.
Ouais.
Il s'en fout.
C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Il comprend qu'il y a un problème. C'est pas qu'il est dans le déni. Il comprend qu'il y a un problème. Mais ça ne le dérange pas. Le fait que l'affaire ne marche pas, ça ne le dérange pas. Il faut quelqu'un qui vienne. Ce quelqu'un, ça peut être moi-même. Ça peut être lui-même. Il faut quelqu'un qui vienne et qui lui dit, hey, wake up, réveille-toi. Il y a un problème, là. Tu vas te casser la figure. On est obligé de le mettre devant les faits. De façon à ce que le problème ne reste pas théorique, le problème devient pratique, le problème devient concret. C'est exactement ce que tu dis ici. C'est ce que tu dis ici, l'Admor HaZaken. Il te dit le but de ce chapitre 29, c'est pour ça qu'il n'y a pas de terme spécifique, c'est chacun va se parler à lui-même. C'est qu'on te dit, quand tu vois qu'il y a un problème et que tu es le plus dérangé par les problèmes, dans ce cas-là, il faut réfléchir. Il faut réfléchir et il faut comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Il faut se parler. Là, il va dire des mots très durs. Il va dire des mots très durs. Regarde ce qu'on va lire ici. On va passer à la page, en bas de la page 48. Bonsoir. Vegam, pareil. Yarim alea bekol ra'ash verogez la shpila. Il ne faut pas hésiter à lever la voix et à tonner contre le Yetzara et dire des mots très durs. Très très durs. Comme il m'a expliqué. Chez Nehemar, comme c'est Kmamarazal, comme les Rachamim m'ont dit, c'est une Gemara, que la Gemara nous dit, dans le traité Brachot, les Olam Yargiz Adam Yetzertov et Yetzara. C'est une Gemara très bizarre, ça. Talmud dit, toujours un homme doit énerver son bon penchant contre son mauvais penchant. Pourquoi énerver? Normalement, on a toujours appris que les sages, ils parlent, les nacha, dans le calme, dans la douceur, dans la tranquillité. Pourquoi la Gemara dit, toujours un homme, il doit énerver son Yetzer Tov, son bon penchant sur son mauvais penchant? Pourquoi énerver? C'est très simple. Parce que quand on arrive à un Yetzer Hara qui ne veut plus rien entendre, la seule façon, c'est de lever le ton. C'est comme ça. Quand tu lèves le ton, là, il comprend qu'il y a un problème. C'est comme par exemple, vous parlez à un enfant. Vous lui dites un message, il n'écoute pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu lèves le ton. Et là, il va t'écouter. Pourquoi il va t'écouter? Parce qu'il a eu peur? Pas forcément. Parce que dans le ton, il a compris qu'il y a un problème. Il a compris qu'il est parti trop loin. Ça veut dire, tant que le père n'a pas levé le ton, etc., il dit, bon, ça va, il a dit ça, mais enfin, tu peux faire ça. Ah, voilà. Il a dit ça, je peux faire ça. J'ai ma marche. Mais quand on lève le ton, quand on lève la voix, là, il comprend, il dit, attention, j'ai passé des limites. C'est la même chose. Il faut pas hésiter à lever la voix quand on est tsarara. Mais je vous parle pas devant tout le monde, hein. C'est pas, tu vas à la maison maintenant, tu commences à hurler. C'est en moi-même que je me crie. Je me dis, réveille-toi, il y a un problème. Et ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara, qu'on doit toujours énerver son bon penchant sur son mauvais penchant. Il ne faut pas hésiter à se remettre en question et dire les choses clairement, ne pas tourner autour du pot. Vous savez, on dit qu'une des grandes bases de la chassidoute, c'est le émettre, la vérité. Chez les chassidim, on ne supporte pas les gens qui tournent autour du pot. Les gens qui disent, je suis un grand sadique, mais en vérité, au fond de lui, c'est pourri. Ça, c'est une perte de temps. Parce que on peut arnaquer la planète entière.
Merci.
D'accord? Vous connaissez ce mot du Rabbi de Kotz, que je vous ai raconté une fois, ça fait longtemps. Hein?
Quand j'étais petit.
Le Rabbi de Kotz, qu'il a dit comme ça. Il a dit, quand j'étais petit, je croyais que j'arnaquais le monde. Après, quand j'ai grandi, j'ai cru que j'arnaque mon pays. Après, quand j'ai grandi encore, j'ai compris que non, c'est pas mon pays, c'est ma ville. Etc., etc. Après ma ville, après ma rue, etc. À la fin, il dit, j'ai compris que j'arnaque personne, j'arnaque moi-même. Et quelle intelligence d'arnaquer un imbécile. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de dire les mots. D'appeler un...
Un chat.
D'appeler un rachat, un rachat.
Razak. Amen.
Quand le Yitzhara ne va pas, il ne faut pas hésiter à lui dire. Chez Neymar, comme c'est écrit, Rigzou. Comme c'est écrit, Rigzou, ça veut dire énervez-vous.
Tu crois que ça va changer ça?
Bien sûr, ça va changer. Ça va changer à 100%, je vais te dire pourquoi.
Il est buté. Hein.
Je vais te donner un exemple. Imagine-toi une personne qui est évanouie. Qu'est-ce que tu fais pour le réveiller? Tu essaies de lui parler.
D'accord.
Tu dis, David, réveille-toi, il se réveille pas, qu'est-ce que tu fais?
Rebelote.
Corbelote. Non, qu'est-ce qu'on fait? T'as pas fait secourir, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le secoues.
Ouais.
Tu lui mets des claques. Tu lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il met des claques. Il veut le sauver, il met des claques. Il est fou, quoi. Ce qu'on apprend, non? T'as appris ça ou t'as pas appris ça à l'armée? On met des claques, tu lui mets des claques, pourquoi tu lui mets des claques? Parce que comme il est arrivé une situation dans laquelle il n'arrive pas à se réveiller, pour le réveiller, il faut lui mettre une claque. C'est la même chose. Il y a un Yetzer Hara qui arrive à comprendre avec un message. Tu lui dis calme-toi, il se calme. Mais des fois, le Yetzer Hara, il est tellement bas qu'il faut une claque. Et tant qu'il n'a pas reçu cette claque, il ne se réveille pas. Maintenant, la claque, il ne faut pas attendre, c'est Dieu qui te la donne. La claque, je peux me la donner moi-même. Ça veut dire, je me réveille, j'essaie de me réveiller, on dit, hé, réveille-toi, il y a un problème. Faut pas que ça reste théorique, tout ça.
Mais la personne qui
Mais
a
concrètement, ça se passe comment donner une
Ah, on va expliquer, on va expliquer, on va expliquer. Alors, ça veut dire comme ça. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner sur ça. Imaginez, par exemple, qu'un élève, vous êtes en classe, un professeur, vous êtes professeur, vous enseignez à des élèves. Il y a un élève, tu vois, il écoute pas. Ça veut dire, il pose la question à chaque fois, mais de sa question, tu comprends qu'il veut pas comprendre. Alors, tu le répètes. Une fois. Deux fois. Mais tu vois que ça rend pas, il veut pas écouter l'élève. Ça veut dire, il dit qu'il veut comprendre, mais il veut pas se casser la tête pour comprendre. Qu'est-ce qu'il va faire le maître? Il va lever le ton.
Il va lui mettre une
gifle. Non, pas une gifle.
Il va le punir.
Il va lever le ton. Il va lui dire, écoute, tu me prends pour un imbécile ou c'est toi l'imbécile? Ça veut dire qu'il va le mettre devant, il va le mettre devant ses actes, il va le mettre devant ce qu'il fait. Pourquoi le maître fait ça? Parce que le maître a compris que l'élève veut comprendre, mais il veut pas faire l'effort de comprendre. Donc ça peut pas avancer. C'est-à-dire que des fois, la seule situation, la seule issue, c'est de mettre quelqu'un, la personne, devant la réalité. Seulement, attention. Contrairement à d'autres approches, comme l'approche du Moussa, par exemple, qui te dit que je dois faire ça avec les autres, c'est-à-dire que moi, je dois remettre les autres en place, la Chassidout nous demande rarement de mettre les autres en place. Tout le but du chapitre 29, c'est de me mettre en place. Me remettre en place. Vous me suivez? Ça veut dire... Le but, c'est pas de dire, ouais, il a raison, ce soir, je vais rentrer à la maison, je vais le déchirer. Non, non, c'est pas de l'autre qu'on parle. C'est de moi qu'on parle. C'est pas de dire, oui, il m'écoute pas depuis le temps, il faut que je le mette sur la tête. C'est de moi qu'on parle. C'est avec tout le temps que j'ai lu dans les livres, et que ça ne va pas, et qu'il faut changer, etc., je change pas. Le problème, pourquoi je change pas? Pourquoi je change pas? Parce que je suis pas convaincu que je dois changer. Donc, il faut secouer. Il faut secouer, il faut secouer, il faut s'énerver. Alors, regardez les mots qu'il va dire ici. Deaïnou, ça veut dire. On va prendre la page, donc page 49. Deaïnou, ça veut dire. Deuxième paragraphe. L'irgoz al-nefesh abemit. Se mettre en colère contre son âme animale. Chehu yitzroara, qui est donc son mauvais penchant. Bekol ra'ash ve rogez marchavto. Dans une voix forte et furieuse dans sa pensée. Lomarlo, en disant son yitzara. Atara. Tu es mauvais. Veracha, méchant. Ou meshukat, abominable. Ou metouav, dégoûtant. Ou menouval, vil. Verroulé, etc. Complétez la liste. Kirol Hashemot, Shikarulo, Chamenu Zichronam Livraha. Comme tous les noms que les Chachamim lui ont donné. Vous savez, quand on est dans la Gemara, comme on appelle Yetzara, on le sort tous les mots. On l'appelle l'ange de la mort. On l'appelle tous les noms imaginables, possibles, inimaginables que tu veux. Il faut les sortir. Donc il faut, tu sors tous les noms possibles au Yetzara. Et ne crois pas que je dis ça pour la forme. Béhémeth, c'est vraiment comme ça. Il faut pas hésiter de t'appeler un rachat, de dire au Yetzirah, tu es mauvais. Admatai tastir lifne orensov orochom emalek olalmin. Je dis à mon Yetzirah, jusqu'à quand tu vas me cacher? Tu vas faire ton obscurité et m'empêcher de pouvoir m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Imaginez, c'est comme une personne, il est en train de vouloir voir une vidéo, et t'as quelqu'un qui est devant lui, qui se met devant lui comme ça. Après, tu bouges, il te met là, il se met là. Tu bouges, il te met là, hop, il te met là, il te met là, il te met là. À un moment, qu'est-ce que tu veux étudier? Tu vas te bouger maintenant? Tu vas arrêter? Tu vas m'empêcher longtemps comme ça? Hein, qu'est-ce que tu fais? Mais dégage! Et tu lui parles, il ne veut pas comprendre. Ça, c'est Yitzhara. Et il y a des textes, on verra dans la suite, qu'il y a des textes qui te disent que, en vérité, le Yitzhara, il attend que ça. Il attend que ça. Quand quelqu'un, il te cherche, il attend que ça. Il attend que tu le renvoies. Si tu le laisses faire, ben vas-y, il va continuer des années comme ça. Alors, il y a deux types de mal. Vous savez, c'est comme, qu'est-ce que vous faites par exemple? Vous sortez dehors dans la rue, il y a un arabe qui vous dit c'est le juif. Qu'est-ce que vous faites? Vous répondez ou vous répondez pas?
Je réponds pas.
Il y a deux approches. Si t'es une personne, si il te le fait comme ça occasionnellement et qu'il te dit c'est le juif, bien sûr je réponds pas. Je rentre pas dans son jeu. Je lui montre pas que je suis dérangé par ce qu'il a dit, donc j'avance. D'accord?
Je suis pas certain, je réponds pas.
Bon, en tout cas moi je réponds pas. D'accord? Parce que c'est une grande question que le roi Salomon pose dans les proverbes. Il dit qu'est-ce que dans les proverbes il y a deux textes. Il y a un verset dans lequel le roi Salomon dit réponds à l'imbécile dans son imbécilité. Il y a un autre verset dans lequel le roi Salomon dit ne réponds pas à l'imbécile dans sa bêtise. Alors je réponds ou je réponds pas? C'est quoi la réponse? C'est très simple.
On m'a dit de répondre.
Si c'est occasionnel et que tu sens que la personne, et c'est comme ça en général, si tu vas le laisser parler, alors le rachat à bois et la caravane passe, dans ce cas-là, laisse-le parler. Allez, c'est bon, t'as dit salut, t'as fait un kiff. C'est bon. Bon, vas-y, parle. Que j'en ai à faire? Si je m'attaque avec toi, je vais pas me battre avec toi. Je vais pas te donner l'attention que t'as envie. Ce qui veut de l'attention finalement.
Bien sûr.
Mais si tu sens que c'est plus que ça, et tu sens que il te lâchera pas tant que tu l'as pas remis en place. Et il sera là, il t'embêtera, tant que t'as pas mis en place, il s'arrêtera pas. Là, il faut répondre.
Bien sûr.
D'accord? C'est le juif, c'est l'arabe.
Tu peux déchirer.
Hein? Il faut être sûr d'avoir. C'est une image.
Ouais, bien sûr, il faut.
Alors, quand le Yitzhara, il m'embête, j'ai les deux approches. Si je sens que c'est un Yitzhara qui me dérange occasionnellement, je dis bon, je fais comme si de rien n'était, j'ouvre ma page de Limoud, je vais commencer à étudier comme si de rien n'était. Mais quand tu vois qu'il te lâche pas, il t'embête, à un moment, il faut remettre en place. Il faut dire écoute, je vais t'expliquer maintenant. Maintenant, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Tu dégages. Je te connais pas, j'ai pas envie de t'écouter. D'accord? Mais ça marche comme ça, Est-ce que tu as déjà dit une fois une pensée qui vient dans ta tête? Dégage. Et je vais vous dire, je me limite à ces mots parce que c'est les mots que j'utilise. Mais si dans votre vocabulaire habituel vous employez d'autres termes, employez-les sur votre tirara. Hein, parce que ces mots-là, ils sont pas faits pour les employer contre des amis. Dites tout ce que vous voulez de ça. Lui dites, dégage, je veux pas te parler, laisse-moi tranquille.
J'ai essayé, il m'a pas cru.
D'accord? Parce que t'étais pas sérieux.
Tu lui dis en rigolant.
Tu lui dis en rigolant. Yeah, c'est rigolo celui-là. Ad ma taille t'astir, comment expliquer quand tu vas cacher. Et donc, aya obeveye beshave gambe makom zeshani alav ke mosha. Donc j'accélère un peu parce que je ne rentre pas dans les détails ici. Ke mosha ya or en tseva ochu levado konesh nivra olam blishim shinui ke mosh ketuv aniyavelo shenetik kol malam azman. En vérité, comme on l'expliquait longuement dans le chapitre 23, etc. Dieu est partout. Et qu'est-ce qu'il fait les Tzara? Il veut me faire croire que Dieu n'est pas là. Je dis, mais quelqu'un, tu vas me cacher. N'oubliez pas, de quelle situation on parle ici? On parle ici d'une situation d'une personne qui n'est pas croyante. On parle ici d'une personne qui, intellectuellement, logiquement, il comprend qu'il y a un problème. Mais il n'arrive pas à bouger. Donc il y a plusieurs types de thérapie. Il y a un type de thérapie où on te dit, la thérapie, ça va passer par le fait qu'on va essayer de d'ignorer les mauvais côtés, on va se concentrer sur les bons côtés. Mais à un moment, quand le mauvais côté n'arrête pas de revenir, il faut le remettre en place. C'est la même chose que nous dit Sarah. Quand t'as le même problème qui revient, il faut pas hésiter de dire, laisse-moi tranquille. Dis à son éternel, laisse-moi tranquille. J'ai pas envie de te parler. Donc, ce qu'il dit ici. Alors, je vais sauter un peu quelques lignes. D'accord? Exactement. Et pourtant, il y a un autre Gemara qui te dit qu'un homme doit énerver son éternel ou son éternel. C'est exactement ce qu'on a expliqué. Ça dépend. Si tu sens que c'est une situation que le juge de l'Etzara t'embête un petit peu, et que tu récupères une mauvaise amidrash, et qu'après tu es tranquille, c'est une chose. C'est comme un imbécile qui est là qui t'embête, mais dès que tu ne l'écoutes pas, c'est fini, il avance. Mais si tu vois que partout où tu vas, il est là. Il lâche pas. Et il revient. Moi, il dit, écoute, c'est tranquille. Ça suffit. Non, mais c'est terminé. Il faut le remettre en place.
Pourquoi tu parles avec lui?
D'accord. Pourquoi? Parce qu'il parle avec toi.
Ben oui.
L'ignorer. Quoi? Si tu peux pas ignorer, comment tu vas ignorer?
Tu l'ignores d'avance.
Tu ignores 120 ans? Comment tu vas ignorer? Mais tu peux pas ignorer.
C'est ce qui t'explique au début du cours.
Là, on parle d'une personne qui comprend qu'il y a un problème et qui n'arrive pas à changer. Tu peux pas ignorer. C'est comme celui qui est là, l'affaire, elle marche pas, mais il est tranquille, il est zen. Comment t'es zen? Il y a un problème. Tu te rends pas compte qu'il y a un problème? Il faut pas hésiter à taper, à cogner. Lui dire, mais arrête, ça suffit. Laisse-moi tranquille. Il faut que je sente dans mon corps qu'il y a un problème. C'est ce qu'il dit ici. Alors, donc, Veiné. Je suis à la page 50, deuxième paragraphe. Je saute un petit peu, hein, parce que je me concentre surtout sur les paragraphes principaux. Veiné. Allié Dézé Yoïl et Napshel Okit. Quand on va faire ce qu'on a expliqué, je parle à mon âme animale et je lève le ton. Je lève le ton. Je lui dis directement ce que je pense de lui. D'accord? Je sors mes cornes. Je sors mes griffes. À ce moment-là, yoil et nafshel okit la irna bemet. Quand on va faire taire un petit peu l'âme animale, automatiquement, l'âme divine va un petit peu plus s'exprimer. Beriya chushit velo beprinat shmiya vavana levadak kemosh ketuv makom acher chez zeu shorash kol avoda. Voilà. Ça, j'ai accéléré un peu parce que je voulais surtout arriver maintenant à la suite à partir de l'étude du 3, du 2 Hadar. Ça veut dire comme ça. Ça paraît un peu léger ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'il fait l'Etzara? D'accord? Qu'est-ce qu'il fait l'Etzara? Quand il t'embête, qu'est-ce que tu dois faire? On te dit, tu lèves le ton et il va se calmer. Et tu crois que le Yitzhara, c'est un petit joueur? C'est la question de David. Tu crois que le Yitzhara, c'est un petit joueur? Le Yitzhara, c'est un gros joueur. Tu crois qu'un gros joueur, tu viens, tu lui dis, tu le cries, il va dire, qu'est-ce que tu me cries? Je te crie, moi je vais te crier aussi. Est-ce que tu crois que tu vas calmer le Yitzhara en lui criant dessus? D'accord? Et c'est une grande question générale. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu crois que tu peux calmer le mal en utilisant la force? Mais lui aussi, il a de la force. Là, il va nous apprendre un très grand principe, et la vérité, on ne peut pas avoir de le plus grand rapport avec l'actualité d'aujourd'hui. Regardez ce qu'il va dire ici, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Là, on va passer à l'étude du Dehadar, et là, on va s'arrêter mot par mot. Parce que là, c'est très très important ce qu'il va dire. Enfin, avant aussi, c'est important, mais je vais rentrer maintenant dans les détails. Je suis en bas de la page 50. Ve'atam. Ve'atam. La raison pour laquelle on vient de dire que en cassant le Yitzhara, ça va marcher. Et automatiquement, mon âme divine pourra éclairer, automatiquement ma vie ira mieux. Tu crois comme ça, Stam, tu vas lever le voile, ça va marcher. Pourquoi tu crois que ça va marcher? Là, il te dit comme ça. Il dit, tu sais pourquoi ça va marcher? Il te dit parce que les filles, Shebe Emet, Enchum, Mamashut, Klal, Besitra. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire ici. En vérité, il n'y a aucune réalité dans le Sitra Hara, c'est-à-dire dans les forces du mal. Ça veut dire comme ça. Les forces du mal, quand on les voit extérieurement, elles nous ont l'air puissantes, extraordinaires, etc. Mais en vérité, tout ça, c'est du vent. Tout ce que vous voyez autour de vous, ça veut dire ces terroristes, ces imbéciles, tout ça, etc. En vérité, tout ça, c'est du vent. Quand je dis c'est du vent, c'est pas qu'ils sont pas là. C'est que ils t'ont l'air très très fort. Ils t'ont l'air très très fort. Mais ils n'ont que l'importance qu'on veut bien leur donner.
Mais il faut quand même s'en rendre
compte. Il faut quand même s'en rendre compte.
Vous avez raison. Je dis pas qu'on va leur donner l'importance. À un moment, on est obligé de partir en guerre et on est en guerre. En guerre ou dans la guerre, hein, selon les terminologies qu'ils utilisent. En tout cas, on est en guerre. C'est pas la question. Mais ce qu'il te dit ici, c'est que le mal, en vérité, n'a pas d'existence. Il n'a que l'existence qu'on veut bien lui donner. C'est la raison pour laquelle, comme on va voir tout de suite, le mal. Attendez, je me prépare. On va commenter. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et on le voit ça d'ailleurs, comment des fois une personne peut venir de très très loin, et comment avec un peu de lumière de la Torah, tout le mal s'en va. Pourtant, c'est disproportionné, ça veut dire, je comprends pas, il y avait tellement de mal, comment avec un peu de Torah tout peut partir? C'est très simple. Parce qu'en vérité, le mal, c'est comparé à l'obscurité. Le bien, c'est comparé à la lumière. Mamache comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit? L'obscurité n'a pas d'existence. L'obscurité n'a pas d'existence. Même si tu crois que l'obscurité se bat avec la lumière, elle se bat pas avec la lumière. Il n'y a pas de lumière. Seulement, quand tu vas allumer la lumière, automatiquement l'obscurité va partir. Et surtout, ce qu'un prix Igaret Hatshuva, on l'a pas encore fait dans le deuxième cycle du cours de Tania, mais rappelez-vous ce qu'on avait expliqué dans le Igaret Hatshuva, hein, qu'en vérité, le mal tire son énergie du bien. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Que si tous les juifs, au même moment, arrêtaient de fauter, ou tous les gens, en tout cas tous les hommes du monde, arrêtaient de donner de l'importance au mal, le mal cesserait d'exister. Ça veut dire que le mal n'a que l'importance qu'on veut lui donner. Mon Yetzer Hara n'a que l'importance que je veux bien lui donner. Si je lève le ton et je dis à mon Yetzer Hara, tu es un vaurien. Je suis pas en train de le dire, t'es un ennemi très puissant. Vous voyez comment on lui parle? On lui dit pas, t'es un état islamique. T'es un état, t'es très important. Je lui dis, t'es un vaurien, t'es un imbécile. Je l'écrase. Je lui dis, t'es pas important pour moi. Je t'écoute pas, tu m'intéresses pas. Quand tu l'écoutes pas, le Yetzer Hara, quand tu écoutes pas le mal, automatiquement il perd son importance.
Il s'essouffle. Mais dans ce sujet, d'accord, c'est un combat intérieur. On parle pas.
Exactement. Non, bien sûr, il n'y a pas de question dessus. Mais ça, c'est un principe général par rapport au mal. Oui. Que le mal n'a que l'importance qu'on va lui donner.
On ne parle pas du mal.
Je te donne un exemple. Est-ce que tu as vu par exemple l'ascension d'Ahmadinejad du marché mort? Même l'État islamique, ouais, Daesh par exemple. Quelle importance on lui a donné? C'est l'importance qu'on a bien voulu lui donner. Bien sûr, il a attaqué. Non, mais écoutez bien ce que je veux dire. Prenez par exemple Ahmadinejad. Il n'est pas nouveau sur la scène internationale. Ça fait 30 ans qu'il est là.
C'est plus le meilleur.
D'accord?
Hein? Il est plus là maintenant.
C'est Rouhani maintenant.
Qui c'est? Il est plus là.
Ahmadinejad.
Il est où alors?
Je sais pas, mais c'est plus le président.
C'est Rouhani.
D'accord. Bon, mais il est toujours là. Ça veut dire qu'il est toujours. Bon. Alors en tout cas, lui, quand il a commencé, voilà. C'est-à-dire au début, quand on lui donnait pas d'importance, il n'avait pas d'importance. Progressivement, on lui donne de l'importance, on crée le problème. Alors on est obligé. Donc après, ça devient un problème. Maintenant, d'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les problèmes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que ignorer un problème, c'est pas bon non plus. Ce que je veux expliquer par là, c'est que quand on parle à son Yetzer Hara, au début, tu essayes de l'ignorer, mais quand tu vois que tu ne peux plus l'ignorer parce qu'il a pris trop de place, alors tu le mets par terre. Tu lui dis, écoute, je vais te dire en face, t'es un imbécile, t'es un vaurien, tu m'intéresses pas. D'accord? Casse-toi, dégage, on va te parler. Tu lui montres le ton, tu lui parles comme t'aurais parlé à un terroriste. Tu lui dis, je veux pas te parler. Et c'est comme ça qu'il faut parler à son Yetzer Hara. Quand le Yetzer Hara, il t'embête, et tous les soirs, et tous les matins, il te propose la même verra, il revient. Au lieu de rentrer, on discute pas avec un terroriste. On discute pas avec un Yetzer Hara. On ne discute pas. Pas de négociation. À l'américaine, vous savez, les Américains, ils font pas de négociation. On négocie pas. Il faut pas négocier avec le Tsar. On négocie pas, on dit pas, bon, écoute, tu me laisses ça, je te laisse ça. Il n'y a pas de négociation. Je parle pas avec toi. Je parle pas avec toi. Dehors. C'est tout. Ça, c'est dans le cas dans lequel je sens que j'ai perdu la sensibilité. Là, dans ce cas-là, j'ai plus le choix de devoir être secoué. Donc, écoutez, on va relire dans les mots et on va décortiquer. Ça veut dire qu'il n'a pas d'existence. Ça veut dire qu'il n'a que l'existence. Parce que, regarde, la question est très simple. Qui peut se battre contre la Kedusha?
On dit Boré Rocher.
J'ai compris.
On crée l'obscurité.
Mais l'obscurité, c'est pas le mal.
C'est, tu viens de le dire.
Ça, c'est le symbole.
C'est Kalim Shalal et Rocher.
Je parle de l'obscurité qui se bat contre le bien. Qui est assez fort pour se battre contre la Kedusha? Personne.
Et qui a intérêt à se battre contre la Kedusha?
Comment c'est possible que le mal est au même niveau que le bien? Comment c'est possible que le Yetzer Hara peut être au même niveau, au même piédestal que le Yetzer Tov? Qui peut être au niveau de se battre contre le Kedusha?
Même plus.
Même plus.
Même plus, oui, oui.
Non mais, c'est comme sur le terrain. Mais quand tu réfléchis, en vérité, le Yetzer Hara, il n'a aucune existence. Ça veut dire qu'il n'a que l'existence qu'on veut bien lui donner. Et quand tu lèves le ton et tu lui dis, écoute, tu n'es pas important, automatiquement, tu le remets à sa place. Tu dis, écoute, toi, tu es là pour de temps en temps peut-être m'envoyer des petits plaisirs, mais tu n'es pas là pour me casser ma vie. T'es pas là pour me pourrir ma vie. Quand tu sens qu'il te pourrit la vie, après, il faut dire, écoute, ça y est, ça suffit. Ah, ouais. On a donné, on a payé, c'est bon. Dehors. Ce qu'il dit ici. Mais on va développer. Il dit, Vekacha Sitra Achara. Il en est de même pour Sitra Achara. Ça veut dire quoi, Sitra Achara? Sitra Achara, c'est les forces du mal. D'accord? Alors, vous savez, c'est une grande question qui est posée dans le Midrash. Est-ce que l'obscurité est une existence?
Oui.
Ah, attendez, réfléchissez à la question. Est-ce que l'obscurité, c'est un manque de lumière? Ou l'obscurité est une création?
Non, c'est un manque de lumière.
C'est une création.
C'est en lumière, c'est une création et en l'allumant.
Alors, Abraham, qu'est-ce que tu penses, Abraham?
Non.
Oublie ce que tu lis. Justement, qu'est-ce que tu penses? Là, imagine-toi, il y a la lumière, et j'éteins la lumière, il fait obscur. Est-ce que l'obscurité est une création, ou l'obscurité est un manque de lumière?
Un manque de lumière.
Ça veut dire, est-ce que l'obscurité est un vide de lumière,
c'est
ou l'obscurité est une entité qui est obscure? En d'autres termes, est-ce qu'il y a un combat entre une entité obscure et une entité lumineuse, et l'entité lumineuse gagne l'entité obscure?
Oui, c'est ça.
Ou bien, est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas d'entité obscure? Il n'y a que l'entité lumineuse, seulement des fois elle est allumée, tant mieux, des fois elle est éteinte, donc il n'y a pas. Mais qu'en vérité, l'obscurité n'est qu'un manque de lumière. Qu'est-ce que tu penses, Yves?
L'obscurité est un manque de lumière, c'est évident.
Alors l'obscurité est un manque de lumière ou l'obscurité est une création?
Des fois, c'est trop de lumière.
Non, j'ai plus une création et la lumière, le champagne.
Alors,
c'est pas une création.
Ça existe, vous dire.
C'est pas une création. C'est la question qu'on pose ici.
Ça a toujours été.
Oui, mais c'est toujours été. Mais c'est une création. C'est ce qui existe. Ça existe et la lumière existe. Donc c'est, en fait, c'est comme le Serra et le Serra.
Alors, je vais expliquer ce qu'il veut dire ici.
Ouais, je pense maintenant.
En vérité, vous savez ce que dit le Zohar sur l'obscurité? Vous avez déjà entendu parler de la lumière noire?
Lumière noire.
Beaucoup de lumière. Si vous mettez vos yeux devant un spot, qu'est-ce que vous allez voir?
Rien.
Qu'est-ce que vous allez voir?
Noir.
Pourtant, c'est une lumière qui est très forte. Ça veut dire comme ça. En vérité, il y a trois choses. Tu as une lumière dévoilée. Tu as une lumière qui est tellement forte que tu vois du noir. Mais en vérité, on sait qu'il y a une grande lumière. Mais tu as aussi de l'autre côté un manque de lumière. Maintenant, où se situe le mal? Le bien, c'est la lumière. Il y a des fois un bien qui est tellement fort, d'accord, que on n'arrive pas à le voir. Mais le mal, c'est où dans tout ça? Le mal, il est de l'autre côté. Le mal, c'est un manque de lumière. C'est pas une entité qui se bat contre moi, c'est un manque de lumière. C'est-à-dire, comme j'ai pas éclairé ma vie, comme ma vie est obscure, donc automatiquement, c'est l'obscurité qui règne.
Mais tu sais qu'il y a un danger de ça. On va dire pile le contraire.
Pourquoi?
La création, la vraie création, c'est le noir.
Non, ma droite.
Et quand le noir s'en bat, il y a pas bon.
Si tu veux, ça reste à prouver.
La vraie création, qu'on a créé le vrai, c'est le mal, c'est le noir. Et quand tu fais du bien, ça éclipse un peu le mal.
Ce que je vois autour de moi, c'est que pour allumer, j'ai besoin de générer quelque chose. Et quand j'arrête de générer, c'est obscur.
Donc ça veut dire que c'est le manque, manque d'existence.
Donc ça veut dire que la lumière c'est l'existence et l'obscurité c'est non existant.
Ouais.
C'est ce qu'on voit de nos yeux.
Non, la lumière a été créée.
Seulement, comme tu as dit, Dieu il a aussi créé l'obscurité dans le sens qu'il y a une obscurité qui est une lumière profonde.
Oui, parce que l'obscurité c'est un état, donc obligatoirement ça veut dire que c'est une création, sinon ça existe.
C'est sûr, c'est sûr. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a deux types d'obscurité. Tu as une obscurité qui est un manque de lumière.
Oui,
et tu as une obscurité qui est en vérité une lumière cachée. Ok. Quand par exemple Dieu préserve une personne face par une épreuve, on dit qu'il est dans l'obscurité. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est dans le noir? Il n'est pas dans le noir, c'est qu'il n'arrive pas à voir. Mais le mal, c'est pas que j'arrive pas à voir, c'est du noir, c'est du vide. Donc ce qu'il veut te dire ici, la question qu'on se pose, la question de David, il dit mais attends, comment on peut être sûr, de quel droit on peut être sûr qu'on va gagner les Tzara? Il te dit c'est très simple. Il dit parce que le Yetzerara, en vérité, c'est rien. En vérité, c'est rien. Seulement, moi, je lui donne de l'importance. Seulement, bien sûr qu'on lui donnera de l'importance jusqu'à 120 ans, je vous rassure. Hein, ne croyez pas qu'après ce commandement, vous allez devenir Tzadikim. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, je l'ai étudié plusieurs fois ce chapitre. Je sais pas, on n'est pas Tzadikim pour autant. Pas ça, la question. Mais c'est de remettre les choses dans la proportion. De comprendre qui est à sa place, qui n'est pas à sa place. Le Yetzerara, il ne faut pas lui donner une place qu'il n'a pas. Il est là, il m'embête, il me casse les pieds, il n'y a pas de problème. Mais ne le mets pas au même rang que le Yetzer Tov. Ne dis pas qu'il est là et qu'il peut générer, que j'en peux plus, etc. Non. Il donne la place qu'on vient lui prendre. Et quand à un moment tu le remets en place, il te laisse tranquille. C'est comme un voyou qui est là. Vous avez déjà remarqué, les voyous, c'est comme des mouches. Ils sont là, ils te cassent les pieds. Dès que tu lèves le ton, ils s'en vont. Comme si, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il comprend. Il est là, il fait le malin, mais dès que tu lèves le ton, il comprend qui est le patron, il s'en va. Mais c'est comme ça qu'il faut faire avec le Yetzer. Il faut lui montrer qui est le patron. C'est moi le patron, c'est pas toi le patron ici. Pas hésiter à lever le ton, ce qu'il dit ici. Alors, il dit, af maintenant, donc je suis à la ligne, je suis.
Il me manque quand même un exemple concret.
Donc. L'exemple concret, c'est ta vie.
Exactement.
Il n'y a pas besoin d'exemple concret.
Dans...
L'exemple concret, tu dois chercher dans ta vie.
Expérience.
Tu dois chercher dans ta vie, dans ton expérience, les choses sur lesquelles tu butes et que ça ne change pas. Tu sais, il y a des choses qu'on sait. Il y a des choses, tu sais, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Chaque fois, je dis, ouais, il faut que je change et ça ne change pas. Donc, ça veut dire que je n'ai rien à faire.
Pas forcément.
Bah, imagine-toi, tu vas voir un client, chaque fois que tu l'as, il dit, ouais, mon affaire ne marche pas. 10 ans plus tard, ouais, mon affaire ne marche pas. Il dit, bon, ben, le gars, il en a rien à faire, son affaire ne marche pas. Parce que 10 ans plus tard, il dit toujours qu'elle ne marche pas, son affaire.
Ça veut dire qu'elle marche. Mais hein? 10 ans plus tard,
c'est plus. Oui, d'accord. Donc, il y a un problème.
D'accord.
Mais quand le mec, 10 ans plus tard, il est encore en train de se plaindre des mêmes choses, à chaque fois, tu lui dis, écoute, il ne veut pas régler le problème, le bonhomme. Donc, tu lui dis, écoute, le jour où tu es très sérieux, tu viens me voir. Hein, d'accord? Alors, entre temps, tu restes chez toi.
Il a peur de ma bonne feuille. Hein? Il dit que ça marche pas. Bon, mais
de toute façon, je vais vous dire, les. C'est très rare où je vais voir les... quand je vais voir les gens dans les magasins, etc., pour mettre les films, des choses comme ça, que je me demande comment ça va les affaires. C'est très rare, je lui dis, ça va super, Baruch HaShem. C'est très très rare. Il dit, ah, comme ci, comme ça, etc. Jamais, j'ai entendu un mot, même pas pour demander de l'argent, hein. Tu dis, comment ça va? Pour demander comment ça va? Tiens, Baruch HaShem, ça va, ça va.
Ils vont faire du raïm.
Bah aussi, il n'y a pas de problème.
Hein?
Donc c'est ce qu'il dit ici. Alors, on est en bas de la page, on est en bas de la page 50. Shelachen nimshela lechosher. Voilà pourquoi ça a été comparé, le mal a été, et le yetzera, et le mal a été comparé à l'obscurité. She'ein bo mamashut klal, que le mal n'a pas d'existence, ou mi meila ni tre mi pneor. C'est très fort ce qu'il dit ici. Il dit comme ça. Est-ce que quand j'allume la lumière, il y a un combat entre la lumière et l'obscurité? Il n'y a pas de combat. Quand tu allumes la lumière, automatiquement l'obscurité s'en va.
C'est naturel.
Parce que l'obscurité, en tout cas dans cet aspect, c'est un manque de lumière. Donc dès que tu mets la lumière, de fait, il y a la lumière, c'est terminé.
L'expérience, ça marche.
C'est ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire, j'ai pas besoin de dire, bon, maintenant j'allume la lumière elle va sortir ses muscles, elle va se battre dans l'obscurité, peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Ça n'existe pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous avez allumé une lumière et que la pièce est restée obscure?
Oui, l'ampoule était grillée.
Ah d'accord. Donc c'est pas possible.
Non.
Pourtant c'est pas normal.
Oui.
Si tu dis que l'obscurité a une substance, si tu dis que l'obscurité a une existence, dans ce cas-là, l'obscurité aurait dû montrer ses muscles. Il dit non, attends, tu allumes la lumière, moi je suis pas d'accord. Moi j'allume l'obscurité. Et pourtant, c'est pas jamais comme ça. Dès que t'allumes la lumière, l'obscurité s'en va.
Elle est plus forte, la lumière.
D'accord? Non, c'est pas plus fort. Quand même, une petite lumière peut être plus forte que l'obscurité. T'as une pièce entière, elle est obscure. Quand même, une toute petite bougie, elle peut être plus forte. Alors ça, la réponse est très simple. C'est que l'obscurité, c'est un vide. La lumière, c'est une existence. Et l'existence est plus fort que le vide, c'est comme ça.
Quand tu regardes dans
photo, c'est une approche. Non, il y a l'obscurité qui est une existence, mais c'est pas de ça qu'on parle.
Quand tu regardes en photo,
c'est aussi de dire que l'obscurité, en fait, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il est moins fort.
Donc il est moins fort. Automatiquement, il est repoussé. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a même pas de combat. Vous savez, il y a un mot du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, à son époque, il combattait beaucoup, il y avait des rabbins à son époque qui allaient dans les synagogues. On les appelait les magides. Il y avait des bons magides, hein, comme le magide de Doubno, etc. Mais il y avait des magides, c'était un métier à l'époque.
Ça veut dire rabbin.
Non, j'ai expliqué ce que c'est. Ils allaient dans les synagogues et ils faisaient peur aux gens. Ils étaient payés pour ça. Ouais. On les payait pour ça. Et un bon magide devait faire pleurer toute la synagogue. Ouais. Mais grave, ça veut dire que vous allez brûler en enfer, etc. Et tout.
Les
rois de la race. Ah oui, non, c'est un roi de la race. C'est-à-dire pour lui, un bon cours, c'est un cours où tout le monde a pleuré. Sinon, c'est pas un bon cours. Et bon, la vérité, c'est que bon, peut-être les gens faisaient un peu de chouva avec ça. Et le Baal Shem Tov, il a combattu ça, très fort. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que tu rentres dans la surenchère. Parce que ce qui me fait peur aujourd'hui, demain, ne me fait plus peur. Donc, ça veut dire qu'après, on fait de chouva par la peur. Et ma part, ça, le Baal Shem Tov avait toujours cette phrase extraordinaire. Il disait, on ne renvoie pas l'obscurité avec des bâtons. On renvoie l'obscurité en allumant la lumière. T'as pas besoin de montrer au juif qui est loin comment il est loin. Montre-lui la beauté de la Torah et automatiquement il va s'allumer. Seulement, c'est quoi le problème? C'est quand on donne beaucoup de place au mal, alors le mal il a sa place. Là, il faut braver le mal. Mais c'est ce que le rabbi dit. Ça veut dire, si vraiment tu parles à un juif qui est rachat, qui est tellement rachat qu'il n'y a plus rien à faire, que même quand tu lui dis vrai Torah, ça rentre pas. Là, tu sors l'artillerie lourde. Là, tu vas commencer à lui parler du Guéhinnom et de l'enfer et là, tu vas essayer de le bousculer. Comme on voit dans le chapitre 29. Mais pour la majorité des juifs, l'écrasante majorité, 99,99% des juifs, c'est pas le cas. C'est des gens que bon, ils sont un petit peu écartés, mais dès que t'as un rave qui est là avec le sourire, qui leur dit écoute, reviens à la Torah, il revient. Tu allumes la lumière, il revient à l'obscurité. D'accord? C'est ce qu'il dit ici. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle le Yitzhara, quand il a pris trop de place, s'il a pas pris de place, dans ce cas-là, j'allume la lumière, il s'en va. Mais quand il a pris trop de place, là, j'ai pas le choix de lui donner des coups. Et ça, on l'a vu chez le Baal Shem Tov, comment autant pour la majorité des gens, et chez tous les grands maîtres du racidisme, dont le rabbi par exemple, que autant dans la majorité des cas, on a vu comment ils étaient toujours, en général, ils étaient toujours très bons, très souriants, etc., très accueillants, et autant des fois, ils avaient un regard sévère avec certaines personnes, au point que leur racidisme ne le reconnaissait pas. Vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée, une histoire que je l'ai racontée au cours de jeudi matin, l'histoire du racide. Il faut un chassid qui vient voir le rabbi Rachab. Il vient de très très loin, il en pouvait plus, c'est une catastrophe dans sa famille. Shalom Bayit, il n'allait pas, les enfants ça allait pas, la femme ça allait pas, la parna ça va pas, tout qui va pas, c'est la catastrophe partout. Alors, il essaie de ramasser un peu d'argent pour aller chez le rabbi. Il arrive chez le rabbi, pour lui c'est le dernier espoir. Il arrive chez le rabbi, alors il demande un rendez-vous en urgence, on lui donne le rendez-vous en urgence. Il arrive chez le rabbi Rachab. Et il commence à dire, voilà, Rabbi, j'ai problème ici. Le Rabbi le laisse parler. À la fin, il lui dit, désolé, je peux rien faire pour toi.
Alors,
désolé, je peux rien faire pour toi. Et après, le Rabbi, il reprend son livre. Il reprend son livre et il continue à étudier. Bon, du style, tu peux sortir. Alors, ce chassid, il sort. Et il va dans la synagogue, donc là, qui est juste à côté de la chambre du rabbi Rachab. Et il va à la synagogue et il est comme un fou, quoi. C'était son dernier espoir. Il se met à pleurer. Il a pleuré comme il peut pleurer toute sa vie. Qui c'est qui passe? Le frère du rabbi. Tu vois un juif pleurer, tu t'arrêtes. Qu'est-ce qui se passe? Si vous arrivez, pourquoi vous pleurez? Il dit, ben voilà, j'ai fait un chemin de très très loin et j'ai tout misé sur la bracha du rabbi, et le rabbi directement m'a dit, je peux rien faire pour vous, qu'est-ce que je peux faire, etc. Alors le frère du rabbi a dit, attends, je vais aller parler à mon frère. Il va parler à son frère, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu lui as fait là? Même si tu peux pas l'aider, dis-lui au moins une phrase encourageante. Dis-lui, t'inquiète pas, Dieu va t'aider, je sais pas, dis-lui quelque chose. Ne lui dis pas, je peux rien faire pour toi, et ne le jette pas, quoi. Alors il lui dit, mais comment il va maintenant dehors? Il dit, ah, il n'y a rien de pleurer, c'est une catastrophe. Il le rappelle, il dit, bon, rappelle-le. Il le rappelle, il donne la bracha, tous les problèmes sont arrangés. Attendez, justement. Alors après, le chassid, il a demandé au rabbi, il a dit, mais rabbi, explique-moi, qu'est-ce qui vient de se passer là? Je viens vous voir, Vous me jetez pratiquement. Après, je pleure. Après, vous écoutez. Il dit, je vais t'expliquer. Il a dit, quand tu es venu me voir, et tu es venu me raconter tes problèmes ne te dérangeaient pas. Parce qu'à chaque fois, tu dis, oui, bon, je veux voir ici. Bon, je veux voir là-bas. Bon, il y a le rabbi qui va m'aider. Mais tes problèmes ne te dérangeaient pas à toi. Donc, dans le ciel, on voulait t'aider, mais on dit, on ne peut pas l'aider s'il ne veut pas que ces problèmes soient réglés. Donc, j'essaie de t'aider, je ne peux y avoir rien à faire. La seule façon, c'était de mettre devant toi-même. Et de te dire, je ne peux pas t'aider. Et là, tu es parti avec ta midrash, et là, tu as pleuré. Quand tu as pleuré, et qu'à ce moment-là, tu as mis les problèmes devant toi, et que tu as compris que le problème était grave, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a ouvert les portes du ciel. Une fois qu'il a ouvert les portes du ciel, moi, je suis là maintenant pour t'amener ce qu'il faut. Ça, c'est la réponse. Ça veut dire que, il y a des fois dans lesquelles quand la personne ne prend pas conscience, la seule façon, c'est de passer par les pleurs. C'est de le bousculer. Et ça, on l'a vu plusieurs fois. On l'a vu plusieurs fois, les situations comme ça. C'est des situations dans lesquelles il faut des fois être très très dur. J'ai vu une vidéo récemment, une vidéo très connue, une vidéo d'un juif, Dieu préserve, qui s'est converti. On ne peut pas se convertir, mais qui dit qu'il s'est converti. D'accord ? Et pas seulement qu'il s'est... D'accord ? Pas seulement qu'il pratique le christianisme, mais en plus, il écrit, c'est devenu quelqu'un, il écrit des livres, etc. Et une fois, écoutez l'histoire. Une fois, il était dans l'avion. Qui c'est qui tombe à côté de lui ? C'est le Rav Aaron Dov Halperin, qui est l'éditeur du magazine Kfar Chabad. Bon, c'est quelqu'un de très influent, etc. Et lui, il a l'habitude, dès qu'il se sort dans l'avion, bon, la personne qui est assise à côté de lui, il parle avec lui tout le vol. Alors, le Rav essaie de lui parler, il lui dit bonjour, est-ce que vous êtes juif, etc. Il dit, ah oui, bien sûr, je suis juif, viens, on va parler, viens. Et il commence à lui mettre sur la tête, etc., à lui mettre des arguments, etc. Ils ont passé tout le vol à discuter. Bon, l'avion entier était au courant. Et à la fin, hein, c'est un vol qui atterrisse à New York. Alors, le Rav Halperin, il a dit, écoutez, moi, je vous propose quelque chose. Je vais vous amener chez mon rabbin à moi. Et là, c'est, si vous arrivez à le convaincre à lui, vous allez convaincre tout le monde Lubavitch. L'autre, il est là, il est persuadé qu'il va réussir. Oui. Bah, bien sûr, il dit, j'ai un gros poisson dans les mains. Il y va.
C'est le rabbi.
Et il fait la queue pour prendre le dollar. Il arrive pour prendre le dollar. Il prend son livre, parce qu'il avait des livres. Il a écrit des livres. Il prend son livre, il le donne au rabbi. Alors, le rabbi prend son livre, il jette comme ça derrière. J'ai jamais vu ça. Ça bien. Attends, il prend le livre, il jette comme ça derrière. Alors, et le rabbi commence à lui mettre sur la tête. Il lui dit, vous avez beau faire ce que vous voulez, mais c'est-à-dire, tu vois, quand tu vois la vidéo, tu vois avant et après. C'est-à-dire, tu vois juste avant le rabbi sourire, tout ce qui passe, bon, etc. Allez. Ce gars, il passe, qui lui met sur la tête. Il lui dit, mais vous êtes juif, ça sert à rien de dire, vous pouvez raconter ce que vous voulez, vous perdez votre temps, revenez vite parce que de toute façon vous perdez votre temps. Il lui met sur la tête grave. Et il lui dit, si j'ai pris votre livre, c'est pas parce que je vais le lire, c'est comme ça que vous en avez un de moi. Et et je vais vous raconter la suite de l'histoire. J'ai eu la suite de l'histoire l'année dernière. D'accord? J'ai eu par WhatsApp. J'ai une vidéo. Ce juif-là, il a fini par faire teshuva. Il est maintenant dans un Beit Chabad à Los Angeles en train d'étudier la Torah. J'ai la vidéo.
Alors c'était l'extrême. Voilà.
Il a. Bon. Maintenant, alors, et tu le vois d'ailleurs dans. Ça fait de la peine. Tu vois dans la vidéo, c'est un juif qui a maintenant 80 ans. Et tu le vois, il a du mal à lire. Il essaye de lire, je sais pas quel, le Shema Israël, je crois. Et tu vois juste pour lire deux lignes, ça lui prend je sais pas combien de temps. Et tu le vois, il essaye de décortiquer, de prononcer chaque mot. Et il est là, et il se casse la tête. Il a fait teshuva. Ça veut dire que, des fois, la seule façon pour amener quelqu'un qui est dans le mal, c'est de le mettre devant ses responsabilités. Sauf encore une fois. Ça, il faut être à un niveau d'un tzadik pour le faire avec d'autres personnes. Nous, on le fait pas avec d'autres personnes, on le fait avec nous. Avec nous, on n'a pas peur de le secouer. Pourquoi? Comme il a dit ici. Parce qu'en vérité, le mal n'a pas d'existence. Le mal, c'est comme l'obscurité. Il faut allumer la lumière. Mais quand tu vois qu'on allume la lumière et ça marche pas, pardon, là, il faut secouer. Vous êtes d'accord, M. Benita?
Okay. À partir du moment où on prend conscience qu'on cherche la lumière, c'est déjà trois quarts du travail, il est fait.
C'est sûr. Enfin, on dit que il y a un dicton en hébreu qui dit savoir qu'on est malade, c'est déjà la moitié de la guérison.
C'est clair.
Savoir ou accepter.
Savoir et donc accepter. C'est déjà la moitié de la guérison. C'est déjà la moitié de la guérison.
Donc le SAA, là, il n'a pas beaucoup d'existence dans...
Il n'a pas du tout d'existence, mais c'est nous qui lui donnons l'existence. Ok ? Donc on va continuer. Il dit, chez la reine, c'est pour ça, donc je suis en bas de la page 50, chez la reine, c'est pour ça, Nimshel, elle est chocher. Voilà pourquoi le mal est comparé à l'obscurité, chez Ein, Pourquoi l'obscurité? Chez Enbo, juste deux secondes. Chez Enbo Shumamashut Klal, parce que l'obscurité n'a pas d'existence. Ou mi Meila Nitrami Pneor. Et qu'il est repoussé automatiquement devant la lumière. Vekar, pareil à Sitra Hara. Pareil, toutes les forces du mal qu'on peut connaître. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans ce paquet. Vous pouvez mettre le Yetzer Hara. Vous pouvez mettre les forces du mal. Vous pouvez mettre Daesh. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez qu'on peut mettre dedans. Il dit, pareil, la citra hara, af shiyeshba chayut arbe, bien qu'il y a énormément d'énergie dans les forces du mal. Pourquoi? Parce qu'avec cette énergie-là, qu'est-ce qui se passe? Je suis à la page 51. Lea chayot kol ba lechaim atmeim. Parce que c'est ces forces du mal qui vont donner de l'énergie en haut de la page 51. Qui vont donner de l'énergie à tous les animaux impurs, ou nefashatu mota olam, et toutes les nations, d'accord, toutes les nations du monde, vegan nefashatu mitchubi israël, et même l'âme animale qui est dans le peuple juif, qui est l'israël. Mais, mikol makom, arekol chayuta ena mitzad atzma, toute sa vitalité ne vient pas d'elle-même. Chas veshalom. Et la mitzad akdusha kaniskar leel, la vitalité du mal vient du bien. C'est nous qui lui donnons de la vitalité. Velachen, c'est pour ça, i betela legam rebipna akdusha ki bitu la chosha vinaor agashmi. L'obscurité, quand tu regardes un rachat dans les yeux, un terroriste dans les yeux, et que toi tu lui montres la lumière, il se rabaisse devant la lumière. C'est difficile à dire, mais c'est la vérité. Regardez, juste, réfléchissons à l'actualité. Regardez ce qui se passe dans l'actualité. Vous avez un fou, d'accord, qui est en train de tourner, qui rend fou l'Europe entière. Un malade de 26 ans, d'accord. Je ne peux même pas dire son nom, parce que quand on dit le nom de quelqu'un, on lui donne de l'énergie. D'accord. T'as un malade qui est là, il a fait ce qu'il a fait. Alors après, il a regretté, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il a fait. Et il est là en train de rendre fou l'Europe entière. La France, après la Belgique, maintenant c'est l'Allemagne, maintenant, je ne sais pas où encore. Il rend fou le monde entier. Maintenant, il parle même d'attentats à New York. Alors imaginez-vous, si déjà dans les forces du mal c'est comme ça, qu'un fou, un imbécile, un illettré, un tocard, à lui tout seul il est capable de rendre fou et de changer la face du monde, c'est le cas de le dire, il a changé la face du monde, il met des villes entières en siège. Imaginez qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant si on applique la même chose dans le bien.
D'accord. Rend fou le monde,
hein. Ben, en vérité on a tous la force de rendre fou le monde, mais on le fait pas. On a tous la force de rendre fou le monde. On ne le fait pas. On n'a pas la même détermination que celui-là. Vous savez, le rabbi de Chaudon d'Hippolyte, le Bassin Tov, il dit qu'il y a un enseignement à prendre de tout le monde. Ces gens-là, ils sont déterminés.
Ils sont drogués.
Ils sont déterminés. Non, ils sont déterminés.
Ils sont déterminés.
Ils sont déterminés. Ils veulent arriver à un but. Ils sont déterminés. C'est des fous, mais ils sont déterminés. Quand on est déterminé, on peut aller très très loin. On n'a pas idée de la force cachée de quelqu'un. C'est écrit que la mida du bien est plus forte que la mida du mal au moins 500 fois plus. Comme ça, c'est écrit. Au moins 500 fois plus. C'est-à-dire qu'imaginez, si l'autre tocard, il arrive à rendre fou un continent, d'accord? Quelqu'un qui veut mettre le bien, en vérité, il peut changer le monde. Le monde entier! D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, le mal n'a pas d'existence. Il n'a pas d'existence. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Regardez, quand il prend sa force, comment comprendre l'existence. C'est exactement ce qu'il dit ici. Alors, Vegam Nefeshemet Shubisra, Kaliskarlel, Mikol Makom, d'accord? Alors, non, où on était, pardon. Rak seulement, alors seulement, vous allez me dire, attends, c'est très beau ce que tu nous dis, Mandy, là, mais il y a un problème. Tu viens dans tes rêves, là. Tu vas nous dire, ouais, le Tsar n'existe pas, etc. Vas-y, allez, tranquille, vas-y. On sait très bien qu'on va sortir d'ici. Voilà, on va sortir d'ici, on va rentrer à la maison. Et le Tsar, il est là, il va dire, attends, je vais te montrer.
Il nous attend.
Je vais te montrer de quel bois je me chauffe.
On va boire la même chose que toi.
Hein? Alors, comment ça marche? Puisqu'on n'arrête pas de nous mariner depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de nous dire qu'en vérité le Yitzhara c'est l'obscurité et le mal c'est l'obscurité et l'obscurité n'a pas d'existence et qu'en vérité il suffit d'allumer la lumière, l'obscurité s'en va. J'ai dit, bon, c'est très simple alors. Voilà, ça veut dire quoi? Il suffit que j'ouvre le livre, je fais une mitzvah et j'ai plus d'Yitzhara. Il y a tous les sadikim. Comment ça se fait que d'où ce Yitzhara sa force? Et là, écoutez bien cette ligne qui va dire ici. Rak seulement, je suis au milieu de la page. Rak seulement. Chez les gabek douchat nefesh elokit shebad. Il est clair que le bien sera toujours plus fort que le mal. Et que le mal n'a pas d'existence. Cependant, par rapport à la sainteté de l'âme divine, Natan la akadosh baruchu, Dieu a donné aux forces du mal, reshut, l'autorisation, veyicholet, et la possibilité, leagbia atzma kenegda, de se hisser contre l'âme divine et contre les forces du bien pour te faire croire qu'ils sont aussi forts qu'elle. Voire plus forts qu'elle.
C'est dans quel but?
Alors ça, on va expliquer tout de suite. Dieu, il a donné l'autorisation aux forces du mal de s'élever et de faire croire qu'ils sont forts. Ça veut dire que, imagine-toi, que t'as un qui est là, qui est musclé, et l'autre, on lui a donné l'image, on lui a donné l'autorisation de faire avec des jeux de lumière, comme si tu vois, comme si tu avais quelqu'un qui est très fort en face de toi. On lui a donné l'autorisation de te faire croire que. Pourquoi? Dans quel but? Après les questions. Qu'aider afin que chez Adam it orer le itgaber alea le hashpila alede shiput nechadoro. Parce que Dieu a voulu nous donner le mérite. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner le mérite. Chaque fois qu'on va faire un effort, on va faire un effort pour rabaisser l'âme animale, pour la mettre par terre. Ou venivze ben avnimas, ou beitar utadil tata, itar utadil ela. Suite au réveil d'en bas, viendra au réveil d'en haut. Mais ça, on va expliquer après. On va expliquer tout de suite ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, le mal n'a pas d'existence. Toute l'existence qu'il a, c'est quoi? C'est l'existence qu'on veut bien lui donner. Et l'existence que Dieu lui a donné l'autorisation de se faire croire comme. Alors, je suis pas en train de dire que quand on va rentrer chez nous ce soir, le Yetzara nous paraîtra moins fort. Il nous paraîtra toujours aussi fort. Mais quand je sais qu'en vérité c'est du vide, j'ai plus de facilité à me battre. Parce que je sais que l'ennemi est un ennemi qui est imaginaire.
Mais quand plus tu fais rentrer du bien, plus il y a du mal.
C'est vrai, tu as raison.
Plus tu apprends la Torah, et plus
il va chercher à m'attaquer. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut comprendre c'est quoi le mal. Le mal n'est pas une existence qui est aussi forte que le bien. C'est pas qu'il y a un état du bien, un état du mal.
Alors, c'est-à-dire à la limite, si on arrête d'être maso 5 minutes, on arrête d'étudier la Torah, on n'a plus de problème avec les Sarah.
Hein. J'ai pas dit ça, mais on
n'a pas dit
ça.
Je suis un peu extrémiste.
J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça.
Mais attends, mais plus tu étudies, et plus tu as du yes.
Ça dépend sur quoi, bon. Ça dépend sur quoi. T'avais des questions, Abraham.
Ouais. J'ai pas compris cette phrase.
C'est pas grave.
Kol chayuta ina mitzadat tzmach hazeshalom la mitzadat kedusha.
Oui.
Ce qui fait vivre la citra achava.
Ça en est expliqué dans chapitre 22, chapitre 6 et 22.
En fait, ça veut dire quoi?
Ça veut dire comme ça. Dans le monde, ce qui fait. L'énergie des choses peut être que du bien.
C'est un Kadosh Baruch Hu qui donne l'énergie.
Il n'y a que du bien. Et Kadosh Baruch Hu donne l'énergie et l'énergie peut être que du bien. Il n'y a pas l'énergie du bien et l'énergie du mal. Il n'y a que l'énergie du bien. Seulement, chaque fois que je fais une avéra, chaque fois que je fais une avéra, je prends de l'énergie et je la donne au mal. Parce que moi je suis juif, donc un juif il détient une énergie infinie. Quand je fais une avéra, je prends de l'énergie, une force qui est en moi et je la donne dans le mal.
Donc
ça veut dire que, en vérité, le mal c'est du bien. Seulement, c'est du bien qui a été détourné.
Donc, en fait, le mal, en fait, le yetzer hara personnel, il n'est créé que par ses propres fautes.
Évidemment.
Quelqu'un ne faute jamais, il n'a pas de
faute. Mon yetzer hara, il est créé par moi-même. Quand un enfant est né.
Mais c'est ça qui m'a.
C'est la vérité.
C'est parce qu'on dit que la différence entre yetzer hara et yetzer hatov, c'est que yetzer hara vient avec la
naissance. Oui, il vient avec la naissance. Il vient avec la naissance pour te proposer la première bêtise. Mais après, si tu tombes pas dans la première bêtise, il te proposera pas une bêtise plus grosse. Mais si je suis succombé à la première, je lui ai laissé de la place, alors il va prendre plus de place. Si dès le départ, je le bloque et je lui dis tu rentres pas, alors bon, il va prendre qu'une place infinie. Et comme on le laisse rentrer et on le laisse enchérir, etc., ben à la fin, on se retrouve, il prend toute la place. Il va venir d'un coup, il est de Sahara. C'est pas quand je suis né, j'avais un Yetzara big. Il va venir comme ça, il est venu progressivement. Oui, pas de problème, je parle de tentation. Mais il est pas venu d'un coup, il est de Sahara. On commence pas d'un coup à faire des bêtises. Progressivement. Au début, je fais une petite bêtise, après j'enchéris, jusqu'à la fin, il ne reste rien.
Il vient parce qu'on a un âge.
Donc ça veut dire que c'est moi qui lui laisse la place.
Ça passe à un certain âge qui vient.
C'est moi qui arrête d'illuminer, donc, hein.
Ça vient à
partir. Il vient depuis la naissance.
D'accord.
Depuis la naissance, il lâche pas. Voilà.
Après, il grandit avec moi.
Donc, pour revenir, ça c'est le but de ce chapitre. Le but de ce chapitre, c'est de montrer que quand des fois, si un jour, peut-être vous êtes à ce niveau-là aujourd'hui, c'est possible, on passe par des phases comme ça. Si on passe à un moment dans sa vie, dans une phase dans laquelle on sent que plus rien nous parle, et qu'on sent qu'on comprend qu'il y a un problème, mais qu'on n'arrive pas à changer, dans ce cas-là, il faut passer par une phase dans laquelle je me mets dans le mur, d'accord, et je me mets devant ma réalité, et je me dis, il y a un problème dans ce que tu fais. Et ne pas avoir peur de la réalité. Ne pas avoir peur de se mettre devant la réalité, et quand on se met devant la réalité, automatiquement, le Yitzhara, il est mis de côté, et automatiquement, on arrive à donner de la place au bien. Très souvent, c'est comme ça. Un problème, il a l'air très très grand, mais dès qu'on s'acharne devant le problème, finalement, on comprend que ce problème n'est pas si grand que ça. C'est pour ça que ça marche. Ça, c'est le but de ce chapitre. Alors maintenant, on va passer. Il va nous donner une preuve. Oui, je voulais juste rajouter un petit point important qu'il a dit ici. Il a dit, suite au réveil d'en bas, vient le réveil d'en haut. C'est quoi ça de réveil d'en bas et réveil d'en haut? Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, c'est comme un miroir. Ça veut dire que si moi j'avance, il avance. Si je recule, il recule. Donc, si moi je repousse le mal qui est en moi, Dieu enlève le mal qu'il y a dans le monde. Si je rajoute du mal en moi, Dieu laisse plus de place au mal dans le monde. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça qu'il dit ici, suite au réveil d'en bas, viendra le réveil d'en haut. Si moi, j'ai fait un effort pour mettre de côté mon Yitzhara, automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il m'aidera aussi pour qu'il y ait moins de place, pour le mal dans le monde. Maintenant, on va donner une preuve. Parce que c'est assez révolutionnaire ce qu'il dit ici. Si on suit ce chapitre 29, il est en train de nous dire qu'il y a des situations dans lesquelles la seule façon de les solutionner, c'est par la force. C'est ce qu'on vient de dire, non? Il y a des situations que la seule façon de les solutionner, c'est en étant direct, en attaquant les Tsarara, en lui disant clairement, tu vaux rien. Ce qu'on a dit, bon. On va donner un exemple. David, il voulait un exemple. On va donner un exemple concret. David, il sert un grand cru, là. Alors. Ah. Il manque la serviette, David. Alors.
Ah, pardon.
Regardez, il va nous donner ici un exemple. Un exemple intéressant. Pour montrer comment des fois un problème il a l'air grand. Et dès qu'on est un peu ferme, finalement le problème il s'en va. Donc moi chez Matsinou d'abord. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Est-ce que tout est clair d'abord? N'hésitez pas, si c'est pas clair, on repasse une couche.
Moi depuis tout à l'heure, j'essaie de dire juste que dans l'obscurité, il y a déjà de la lumière. Il y a une question aussi de la perception de la lumière. C'est-à-dire que. Quand tu
on l'a dit ça.
Tu as des notions de photo.
Oui, il y a la lumière noire, on l'a dit. Mais on a expliqué que il y a la lumière dévoilée, il y a la lumière noire qui est l'obscurité, il y a le manque de lumière, ça c'est le mal. C'est quand tu n'allumes pas la lumière. Dieu il me donne une lumière, je ne l'ai pas allumée.
Mais regarde, les lunettes infrarouges, tu vois la lumière dans le
Oui, noir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu m'a donné une lumière dans ma neshama et je ne l'ai pas allumée. Quand je n'allume pas, il fait noir, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai un livre devant moi, je ne l'ouvre pas. On ne va pas dire c'est comme si qu'il ouvre, il est fermé le livre. Ouais. Il est fermé. C'est la même chose. Quand tu n'as pas allumé la lumière, c'est éteint. Donc, il faut. Et quand on allume la lumière, automatiquement, l'obscurité s'en va. Alors, juste maintenant, on va. Donc pour résumer, ce n'est pas compliqué ce qu'on a fait aujourd'hui. En vérité, ce qu'on a fait aujourd'hui. On a expliqué que des fois, on est tombé à un niveau tellement bas que la seule façon de faire teshuva, c'est de secouer la personne. Comme le morceau de bois qu'on a expliqué la semaine dernière. Et que, il faut pas hésiter à dire au Yitzhara des mots très durs et de lui dire tu es mal, tu es méchant, tu es mauvais, etc. De l'attaquer de plein front. C'est pas hésiter. Et on a rajouté un deuxième point, on a dit qu'en vérité, quand on réfléchit, le Yitzhara et le mal en général n'a pas d'existence. Seulement, Dieu lui a donné l'autorisation de se faire passer pour. C'est-à-dire qu'il a la carte, tu vois. Il a la carte de sénateur. C'est pas un sénateur, mais il a la carte. Il peut se faire passer pour. Mais finalement, si moi je connais son jeu, parce qu'on connaît son jeu maintenant, et je comprends qu'en vérité, il a que la carte, mais c'est pas un sénateur. Je dis, bon, ça va, arrête ton jeu, déjà. C'est bon. T'es pas important, t'es rien, toi, t'es du vide. Dieu lui a donné la possibilité de se faire croire que. Pourquoi Dieu a fait ça? On a répondu. Dieu a fait ça parce qu'il veut chaque fois qu'on repousse le Yitzhara, on lui fait plaisir. Et on change nous-mêmes profondément.
Donc on fait du mal au mal.
Donc non, on enlève le donc on laisse plus de place au mal. Donc il n'existe plus. Comme quand tu allumes la lumière. Tu allumes un peu de lumière, il y a beaucoup d'obscurité qui est repoussée, mais il reste un petit peu. Si tu allumes grand la lumière, il y a plus d'obscurité, c'est terminé. C'est même pas battu. C'est pas qu'on a eu, il y a pas de sang. Est-ce qu'il y a eu du sang? Il y avait l'obscurité, tu allumes la lumière, est-ce qu'il y a eu du sang?
Tu peux lui faire mal sans le frapper.
Quand tu te bats avec quelqu'un, quand tu as une force contre force, forcément il y a du sang. Il y en a un qui va cogner, l'autre qui va cogner, les deux ils vont se battre. Mais quand j'ai allumé la lumière, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. C'est fini. Il n'y a même pas de fumée, il n'y a rien du tout. L'obscurité, elle est partie, il n'y a plus rien. C'est ça.
Il n'y a pas de combat alors.
Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat.
Mais elle est toujours présente.
Seulement.
Si, il y a un combat voilà. Avec soi-même.
Voilà. Le combat en vérité n'est pas avec le mal. Ça veut dire, quand j'ai dit je me bats avec mon Yitzhara, c'est ça le chidouche aujourd'hui. C'est un très grand chidouche. Hein, monsieur Benita, il a capté. Quand je dis que je me bats, les gens disent je me bats avec mon Yitzhara. Tu te bats pas avec ton Yitzhara, c'est du vent. Je me bats avec moi-même.
L'interrupteur.
Je me bats avec la place que moi je donne au Yitzhara. Seulement, comme Dieu il a permis au Yitzhara de se faire passer pour quelqu'un de très grand, donc moi je crois que je me bats contre le Yitzhara. Mais le Yitzhara c'est rien en vérité, c'est du bluff. C'est du bluff tout ça, c'est du pipeau. Donc en vérité je me bats contre moi-même. C'est contre moi que je me bats. Je me bats contre la place que moi j'ai voulu donner au Yitzhara. Donc le Yitzhara c'est moi. Parce que le mal n'a pas l'existence. Maintenant, on va juste terminer par ça, pour donner un exemple, pour donner une preuve. Pour donner une preuve que le Yitzhara, on va terminer avec ça le chapitre, que le Yitzhara, quand on lui parle dur, il comprend. et que ça marche comme ça, et que des fois, on n'a pas le choix de devoir lever le ton. Regardez. Il va donner un exemple. On va l'accélérer un peu parce que l'exemple est très simple, et l'exemple est, mais l'exemple est très fort. On va prendre l'histoire des explorateurs. Vous connaissez tous l'histoire des explorateurs? Lorsque les explorateurs sont revenus d'Eretz Israël, ils ont pleuré, et c'est Tisha B'Av, d'accord? Dieu leur a dit, vous avez pleuré, ben vous allez pleurer pour quelque chose. Ils ont pleuré, ils ont dit, on n'y arrivera jamais à rentrer en Israël, le peuple est trop fort, etc. Et même le peuple qui est là-bas, il est plus fort que Dieu!
Ils ont dit ça carrément.
Ils ont dit ça, oui. Ils ont dit ça. Attendez, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Regardez dans la paracha Shlach Lecha. Moshé Rabbeinu, il leur parle et il leur dit, mais attendez, vous savez que Dieu va vous punir pour ça. C'est très grave ce que vous faites. Et là, tout de suite, le ministre dit, non, on va y aller, il dit, nous valide, on va y aller, on va monter. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Moshé Rabbeinu, il les a frappés. Dieu, il les a frappés. Il n'a même pas frappé. Regardez dans la paracha Shlach, c'est extraordinaire quand on va dans le texte, on ne s'en rend pas compte. Moshé Rabbeinu, les Bnei Israël, ils sont en train de se plaindre, en train de dire jamais on y arrivera, c'est trop compliqué, c'est trop dur. D'accord? Et juste après, dès que Moshé Rabbeinu, il leur dit, bon, bah, écoutez, Dieu, il a décidé, vous allez mourir dans le désert, il dit, ah, non, on va aller avec toi, Moshé Rabbeinu. Mais, et l'argument que vous avez dit avant, qu'on va mourir en Israël, il n'existe plus, l'argument? Ils arrêtaient pas de dire, non, mais on n'arrivera jamais, le peuple qui est là-bas, vraiment, il est trop fort, il est beaucoup plus fort que nous. Et dès qu'on leur dit, non, mais, Dieu vous punir, ils disent, non, tu sais quoi, on va aller en Israël. Ah ouais, c'est bien Israël. Mais pourquoi c'est bien? T'es bien de dire, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'en vérité, tout l'argument qu'ils avaient, c'était.
Zéro.
Du pipeau.
Les pauvres, ils sont entre d'accord. Deux.
Non, mais c'était du pipeau. Parce que sinon, tu peux pas dire, dans ce cas-là, on va aller là-bas et, parce que tu viens de dire qu'il y a un problème. Je te propose un produit. Tu dis, non, je veux pas, il a tous les défauts du monde. Après, je dis, bon, bah, dans ce cas-là, ça coûtera tant. Je dis, non, je le prends, il est super, ton produit colle à cavole, je te remercie. Mais, comment tu peux, ça veut dire comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça a marché? Ce même peuple qui était en train de dire que le peuple qui est là-bas, il est plus fort que Dieu, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de renier Dieu. Dès qu'on leur dit maintenant, Dieu va vous punir, ils se réveillent. Ces mêmes personnes qui étaient là, qui n'ont pas eu honte, qui n'ont pas eu peur de dire que ceux qui sont en Israël sont plus forts que Dieu, ça veut dire qu'ils ne se battent contre Dieu en disant ça. Dès que tu leur mets un plan en place, ils disent non, on a peur de Dieu. Parce qu'en vérité, ça, c'est le juif. Au fond de lui, on a tous la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, des fois, l'Itzara, il fait un peu son malin. Et donc, du coup, on se dit, ouais, je crois pas en Dieu. Ouais, je crois pas, moi, je suis athée, moi, je crois pas en Dieu. Mais dès que tu le prends, tu le bouscules un petit peu. Il dit non, mais en vérité, j'ai toujours cru.
Alors, c'était quoi la fin des explorateurs? C'était de dire qu'ils pensaient que.
Bah oui.
Les habitants de la terre qu'ils devaient conquérir étaient plus forts que Dieu, ou c'est de dire que c'était ça leur paraissait impossible.
Ouais, la faute c'est que Dieu il a fait un plan et on veut se détourner du plan. On dit que le plan de Dieu n'est pas bon et donc on n'est pas d'accord avec ce plan.
C'est les deux trucs. Alors.
C'est les deux en même temps, bien sûr.
Et la crainte aussi.
Donc ça, là vous voyez dans cet exemple, là on a un exemple concret que Moïse a fait. Sauf qu'encore une fois, je précise, Moïse en tant que tzadik qui se permet de le faire avec d'autres personnes, nous on le fait pas avec d'autres personnes. C'est pour ça que juste après le chapitre 29, juste après le chapitre 29, viendra le chapitre 30. Dans lequel, dans le chapitre 30, on va expliquer l'importance, non mais, j'explique pourquoi. Dans le chapitre 30, on expliquera l'importance de bien juger. Parce que, quand on lit le chapitre 29, on peut se dire, ah, ben voilà, on vient de dire que dès qu'il y a un rachat, il faut le cogner. Vous allez voir que le chapitre 30 va dire exactement le contraire. Il va dire non. Quand un rachat, il faut pas le juger, peut-être que c'est pas de sa faute, etc. Parce que nous, on parle pas des autres, on parle de nous. Quand on parle de frapper, c'est nous-mêmes qu'on frappe. C'est vraiment des gens de l'envergure de Moïse Rabbeinu, lui, il peut se permettre de dire, je vais cogner quelqu'un, je vais le secouer. Ah, il peut se permettre. Un tzadik peut se permettre de faire ça. Comme Moïse Rabbeinu l'a fait sur les explorateurs. Ils ont fait les malins, il les a remis en place, après, c'est bon, on va y aller. Donc, dans les mots. On prend la page, Ukmo Shematzinu, page 52, troisième paragraphe. Kmo Shematzinu davar zemeforash batorah, comme on a trouvé explicitement un exemple qui confirme ce qu'on vient de dire dans la Torah. Gabé Meraglim, concernant les explorateurs. Shemitrilam, ou au début, qu'est-ce qu'on dit des explorateurs? Ils ont dit, kichazak umim menu. Ils ont dit que Dieu est plus fort, ils ont dit, pardon, que le peuple qui est là-bas est plus fort que lui. Alors, menu en hébreu, ça veut dire que nous, et ça veut dire aussi que lui. C'est qui que lui?
C'est lui.
D'accord? Al tikre mimenu roule et là, parce que vous avez mimenu, si on le met avec un tsero, avec un tsero, ça change le sens. C'est pas plus fort que nous, mais c'est plus fort que lui avec un L majuscule. Plus fort que Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu. Shelo eminu bicholet Hashem. Ça veut dire qu'à ce stade-là, il ne croyait pas en la capacité de Dieu, en pouvoir de Dieu. Ah oui?
Ils viennent de voir la manne,
concrètement, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que le peuple qui est en Israël est plus fort que Dieu. Ça veut dire qu'ils ne croyaient pas en la force. Attends, deux secondes. Ils ne croyaient pas en la force de Dieu. Et après. Ve'acharkar. Et après. Razou va mourir de nouvelle et nous. Et après, non, on y va, on va y aller. Vous savez, les mêmes personnes qui se sont révoltées, ils ont dit non, on va quand même y aller. Bon, ce qui s'est passé, c'est que comme Dieu avait interdit d'y aller, ceux qui sont partis, ils se sont cassés la figure. Ah oui. Ils ont voulu faire l'Aliya alors que c'était pas le moment. D'accord? Bon, là, c'est interdit. Là, c'est interdit. Alors, non, là, c'est interdit.
La politique.
Non, ça veut dire que, ils ont voulu, Dieu a dit on peut pas y aller. Ils ont dit on va y aller quand même. Eh ben, ils se sont cassés la figure, parce qu'on peut pas aller quand Dieu a dit qu'on peut pas y aller.
C'est bon.
Donc, ce que je veux dire ici, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Akadosh Baruch Hu, au début, qu'est-ce qu'il a dit? Akadosh Baruch Hu, au début, il se moque de Dieu, il dit Dieu, il peut rien faire. Et après, il dit non, on va y aller quand même. Est-ce que je sais pas si vous voyez l'absurdité de l'histoire? Ça veut dire que les mêmes personnes, écoutez-moi, les mêmes personnes qui ont dit on peut pas aller en Israël, le peuple qui est là-bas est plus fort que Dieu. Ces mêmes personnes-là, lorsque Moïse leur dit, ben messieurs, vous allez mourir ici, ils disaient ben non, d'accord, nous sommes des frondeurs et on va se lever, on fait un comité, ils étaient plusieurs dizaines de milliers et on va y aller en Israël. Avec ou sans Moïse. Et ils sont partis. Les mêmes personnes qui scandaient quelques heures avant, qui disaient on ne pourra jamais y arriver, ils sont plus forts que nous. Mais qu'est-ce qui a changé?
C'est normal.
Ils sont fous, quoi.
Non, c'est normal.
Ils sont schizophrènes.
La situation qui s'est présentée à eux, il y avait la mort, elle était là, elle était assurée. Ah. Tandis que là, il y avait un espoir qui n'est pas là.
Non, mais c'est-à-dire, ils auraient pu aller au Zimbabwe.
Non, il aurait pu avec une peur plus grande.
Voilà. Mais qu'est-ce que ça change?
Il y avait l'espoir.
L'argument qu'ils ont dit que le peuple qui est en Israël est plus fort que nous et plus fort que Dieu, il n'a pas changé cet argument. Dans ce cas-là, ils auraient pu dire on saute.
Oui, mais entre
alors, vous savez ce qu'ils auraient dû dire dans ce cas-là?
Tu vas mourir ici.
Non, dans ce cas-là, ce qu'ils auraient dû dire, ils auraient dû dire on rentre en Égypte. Au moins l'Égypte on connaît. Bon, c'est vrai qu'on est esclaves, au moment on gère.
Mais ils l'ont déjà dit, il n'a pas voulu. Alors, ils l'ont déjà
mais
dit.
Il n'écoute pas de toutes les façons. Il leur a dit n'y allez pas, ils y vont. Alors, écoutez pour pas écouter. Qu'est-ce que tu vas aller dans un endroit dans lequel, quelques heures plus tôt, tu as dit que c'est un endroit qui est ingérable, on n'y arrivera jamais? Comment tout d'un coup on dit on n'y arrivera jamais, et quelques instants après on dit on y va, même si on nous laisse pas aller? Qu'est-ce qui a changé entre les deux? On a la réponse, pas tant.
Il
dit, c'est très simple, on a la réponse. C'est quoi la réponse? Il dit, d'où est revenu la Emouna? Comment ils ont eu la Emouna? Il dit, on va finir un peu plus tard aujourd'hui. Moshe ne leur a pas montré aucun signe. Il leur a pas fait des miracles, il leur a pas fait tomber le ciel. Comment tout d'un coup, ils ont dit, on va y aller? Ce qui a changé, c'est qu'entre temps, Moshe Rabbeinu leur a dit à quel point Dieu est énervé. Mais à quoi ça sert si Moshe Rabbeinu leur dit entre temps, Dieu va vous punir? Puisque de toutes les façons, on parle ici à des incroyants. Ça veut dire que, on vient les voir, on leur dit, vous allez aller en Israël. Ils disent, non, on peut pas y aller parce que le peuple qui est là-bas est plus fort que Dieu. Mais Dieu te dit, vas-y. Oui, mais Dieu, il s'est trompé. Donc c'est des incroyants. Et après, dès qu'on leur dit, vous n'y allez pas, non, on va y aller quand même. Comment, je comprends pas. Comment tu veux que ça change?
Tu remets en cause de la force de Dieu, déjà.
D'accord? Tu remets en cause la force de Dieu. Donc tu peux pas. Tu dis qu'il y a 31 rois qui t'attendent là-bas. 31 rois des armées formées. Ils vont jamais réussir. Pourquoi tout d'un coup ils ont dit non, on va y aller, on y réussira, on va y arriver. C'est très simple. On dit mal aura tu kenes laaretz. Nezel aura tu kenes laaretz. Et la vadaï, deuxième paragraphe du chapitre de la ligne 53, page 53. Et la vadaï, ça m'en c'est sûr. Mipne chez Israël atzmam ema minim bne ma minim. Parce que la raison est claire. Parce que les Juifs en eux-mêmes sont croyants, fils de croyants. Et qu'en vérité ils ont toujours été croyants. Ah, pourtant, ils affirmaient haut et fort, quelques heures plus tôt. Ils disaient, oui, on croit pas en la force de Dieu, et on va mourir, et on n'y croit pas, on croit pas en Dieu. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais au fond d'eux, ils sont croyants, fils de croyants. Ah, pourquoi dans ce cas-là, leur croyance ne s'exprimait pas? Rag seulement, chez Asitra Haram ou Bechet de Goufam, avant que Moïse leur parle, le mal qu'il y avait en eux, Igbi Atzmam alors Dushat Nafsham. Le mal qu'il y avait en eux était tellement fort, Begasudrucha Vegavhuta, dans sa grossièreté, son arrogance, son effronterie. Blitam Vedat, Bechutzpa Blitam Vedat, dans une effronterie qui est illogique. Ça veut dire que c'était carrément au-delà de la logique ce qu'ils disaient. C'est une folie de dire, comme tu as dit, avec tous les miracles qu'ils ont vus, c'est une folie. Mais ça, c'est le mal. Le mal, il peut te rentrer dans une folie tellement forte que c'est insensé. Mais c'est insensé. Comment ces Bnei Israël, avec tous les miracles qu'ils ont vus, nous, si on avait un demi-miracle de ce qu'ils avaient, mais on serait tous croyants. Tout le monde, toute la planète serait croyante. D'accord. Eux, ils ont eu des miracles, son miracle, et ils disent non, on ne croit pas en Dieu. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est que le mal s'est levé tellement fort qu'il croyait qu'il a tout caché. On voyait plus rien. Mais en vérité, un juif au fond de lui, il est quoi?
Pourquoi Dieu est énervé?
D'accord. En vérité, un juif au fond de lui, il est quoi? Merci. En vérité, un juif au fond de lui, il est quoi? Un juif au fond de lui, il est croyant, fils de croyant. Donc c'est pour ça que, lorsque Moshe Rabbeinu par la suite, Velachen, c'est pour ça. Miyad shekatzaf Hashem aleihem. Dès que Dieu s'est énervé. Ve'irim bekol rach ve'rogaz. Et que Dieu s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère et qu'il a dit, avec une voix énervée. Ad matay la'edar. Comment Dieu a parlé? Dieu, il a pas dit qu'à un moment, il dit, bon, bah, écoute, c'est quoi, on va les tuer. Dieu s'est énervé. Dieu s'est énervé. Dieu, il a dit, jusqu'à quand on va continuer avec cette assemblée? Et Moïse a relayé, bien sûr, cette information. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu s'est énervé, c'est un petit peu comme nous quand on s'énerve quand on est de Sarara, les juifs se sont réveillés, ils ont dit, hey, ça suffit là, on est parti trop loin. Il faut qu'on se calme là, on est parti trop loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui-même, des fois quand il voit qu'on comprend pas, il s'énerve. C'est pas qu'il s'énerve parce qu'il s'est énervé. Il s'énerve parce que des fois la seule façon de montrer à l'autre que t'es sérieux, c'est quand tu te montres, tu t'énerves. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la parasha Shlach. Au début, les ministres disent, on ne croit en rien. Dieu peut rien nous faire. Dieu s'énerve. Moïse s'énerve aussi parce que Moïse relaie l'information. Et là, le ministre dit, oh, bah, c'est quoi? En vérité, on est tous croyants, on y va. Qu'est-ce qu'il y a entre temps? C'est qu'il y a eu, c'est que Moshe Rabbeinu s'est énervé. Dieu s'est énervé. Et quand on s'énerve contre le Yetzara, il est HS. Donc ça confirme ce qu'on vient d'expliquer, que des fois, la seule façon, parce que là, on n'a plus le choix.
C'est une situation d'accord de les jours,
hein. J'espère pas.
Écoute, là, t'es bien, t'es dans la santé, t'es au cours, t'es très bien. T'as même des infos, d'un coup, tu vas stresser, tu peux.
Non, c'est pas, on parle pas de stress, là. On parle de Averot.
Ils sont stressés, là, il y a des gens devant.
Non, on parle pas de stress. Stresser, c'est une chose. Avoir peur, c'est une chose. On voit dans la parasha de cette semaine, il a eu peur. C'est une chose, ça. Jacob, il a eu peur. On parle pas de peur, là. Attention. Faut bien qu'on, on parle pas de peur. On parle d'incroyance. On parle de manque de respect à Dieu, d'effronterie. Comme il a dit, arrogance, effronterie. Grossièreté. Parce que être capable de dire c'est... le peuple qui est en Israël est plus fort que Dieu, Dieu peut rien y faire, c'est une effronterie, ça.
Ça oui.
Non, ils ont pas eu peur. C'est pas une peur, ça. Ça, c'est une effronterie. La Torah parle pas de peur. La Torah parle d'effronterie. Dire ils sont plus forts que Dieu. Dis-moi, l'Égypte c'était la superpuissance de l'époque. Tout le monde payait un tribut. Tu vois, c'est 31 rois, tout le monde payait un tribut à l'Égypte. J'étais l'Amérique de l'époque. Si on a écrasé l'Égypte, tu crois qu'on peut pas écraser les autres, on peut tout faire. Mais des fois, le tsar, il monte tellement fort que sort un argument complètement illogique. Alors, juste, excuse-moi, parce que je termine, parce que c'est déjà l'heure, depuis longtemps. Il dit, Okshamut Dvarim Kashim, dernier paragraphe. Okshamut Dvarim Kashim Elou. Lorsque les Bnei Israël ont entendu ces paroles dures, Nirna Venishbar Libam Bekirbam. Leur cœur s'est affermi, leur cœur s'est adouci. Kedirtiv, comme c'est écrit, Vait Abeloua Meon. Le peuple, ils étaient en deuil. Ils sont en deuil envers Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils ont fait une gaffe. Mais là, Naflas, Raham, Shadav, Gavout, Avikaskoura. Automatiquement, dès qu'un juif, il est en deuil, automatiquement, tout le voile qu'il y avait de mal, il tombe. Et quand le voile de mal, il tombe, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est le croyant du juif qui ressort. Et il montre qu'en vérité, il a toujours été croyant. C'est pour ça qu'après, ils ont dit, on veut y aller. Ou miser. Enfin. Mais Israël, Atzmam, Emmamini. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est qu'un juif, au fond de lui, il est croyant. Ah, pourtant, j'en ai rien à faire. Au fond de toi, tu es croyant. Ça, c'est très, très important à comprendre. Seulement, des fois, il faut enlever la couche. Il faut enlever la couche de bêtises qui est autour de nous. On n'a pas le choix, des fois. Il faut frotter. Il faut aller au karcher. Ou miser. De là. Yachol, l'ilmod, kol adam. De là. Voilà, David voulait un exemple. On a un petit exemple ici. De là peut apprendre tout homme. Shenoflim, lob, marchafto, sfekot, alimuna. Tout homme qui est sujet dans sa pensée à des doutes dans la foi. Ça, c'est le problème du Tania, tu vois. C'est-à-dire, ça, c'est un problème que, des fois, il a des doutes dans l'aïmouna. C'est pas qu'il a des bêtises dans la tête, c'est qu'il a des doutes dans l'aïmouna. D'accord? Qui aime divrer, srouar, asitrara, levada. Comprends? Ça veut dire que quand David, il va avoir une bêtise qui vient dans la tête, il va se dire, ah, peut-être que, rasvé shalom, d'accord? Il va se dire, ah, mais, c'est, alors, non, mais c'est vrai. Il y a une petite qui va dire, peut-être que David, il sait aussi ça. Peut-être que David, c'est aussi la bêtise. Qu'est-ce qu'on te répond? Tu dis non. David, c'est pas la bêtise. David, c'est que le bien. La bêtise, c'est du bluff. C'est un bluff qui prend la place, c'est tout. C'est un bluff. Tu sais, il y a des gens qui débluffent. Il y a des gens qui savent bluffer. Et ça peut être des très bons communicants. Ils peuvent obtenir des gros dossiers, mais c'est un bluff. C'est un bluff de A à Z. D'accord. On est d'accord dans la communication. Il y a ça. Des gens, mais du bluff de A à Z. Et il te fait ce que tu veux. Il te fait du forex. Il te fait toutes les bêtises qu'ils font là-bas. Alors, oui, l'arnaque, comment appelle, l'arnaque au patron, comment appelle ça,
ouais.
Alors,
ouais,
c'est, mais c'est du bluff total, de A à Z. C'est du bluff. Ah,
c'est
du
bluff. Il arrive à un mec.
Et le bluff peut marcher. Comme ils disent les communistes, plus c'est gros, un mensonge. Plus il est gros, plus il passe. Alors, ou misez yachol l'ilmod kol adam. Donc chaque homme qui a un doute, qui a des doutes des moulins dans sa tête, il doit savoir. Je suis désolé, on a dépassé un peu le temps parce que on termine le chapitre parce que sinon après la prochaine, ça on commence un nouveau chapitre. Qui aime, qui vrai astrachora magbial asmal anshaval Israël atzvam aminim. Qu'en vérité, alors c'est très fort ce qu'il dit ici. Le juif au fond de lui, il est croyant. Le mal en vérité n'existe pas. Je vais l'expliquer. Et le mal s'élève, et plus que ça. Le mal lui-même n'a aucun doute concernant la foi. C'est-à-dire que le mal lui-même, il sait que ce qu'il fait, c'est faux. Au fond de moi, je suis croyant. Seulement quoi? On a donné la permission au mal de se faire croire comme si qu'il croit en rien. Et moi, je plonge. Donc finalement, lorsque ma chère arrivera, qui c'est qui prendra sur la tête?
C'est nous.
C'est moi. Parce que le mal, il croit pas à tout ça. Juste, on lui a donné une mission, c'est de me faire croire qu'il est fort. Rak shenitan la reshuk levalbel adam divrei sheker mimal rabot botsaro kem pitui azona le ben amela beshekom beshut amela kem moi je vous en cadre. Donc ça c'est un exemple qu'on avait expliqué déjà dans chapitre 7, on va terminer avec ça. C'est le fameux exemple de la femme prostituée. Vous vous rappelez de l'exemple de la femme prostituée? C'est l'exemple que donne le Zohar. Une fois il y a un roi qui a voulu tester son fils, le prince, pour voir est-ce que le prince est quelqu'un de bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une bourse. Il a attaché une bourse. Et il a envoyé à côté d'un endroit de... Il a envoyé une prostituée, une très belle prostituée pour aller s'occuper de lui. Pour voir ce qui va tomber. Bon. Alors maintenant, le Zohar pose une question intéressante. D'après vous, qu'est-ce que veut la prostituée? Est-ce qu'elle veut que le fils tombe ou elle veut pas que le fils y tombe?
Elle s'en fout, la prostituée.
Ah, attention.
Elle veut la bourse.
Alors, je précise que la prostituée est un sujet du roi. Comme tous les sujets du roi. Et qu'en tant que sujet du roi, elle veut faire plaisir. Elle sait que ce qui ferait plaisir au roi, c'est que le fils ne tombe pas. Mais d'un autre côté, on l'a payé pour faire tomber.
Oui, mais pas.
Attendez. Donc c'est quoi?
Tomber à lui. Non. Faire tomber le client, mais
non,
pas lui.
Non, mais là, le roi, il a payé. Il a dit, madame, je veux vous tester mon fils. Donc elle a été payée pour faire tomber le fils. Ouais. Mais d'un autre côté, elle veut pas que le fils tombe, parce qu'elle veut faire plaisir au roi. Elle aimerait pouvoir revenir voir le roi, de dire, votre fils n'est pas tombé.
C'est quelqu'un de vertueux, celui
qui l'écrit. Mais, non, c'est un sujet d'un roi, qui veut le bien de son roi. Mais d'un autre côté, elle a été payée pour le faire. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va se faire la plus belle possible, elle va essayer de faire tomber le plus possible. Mais au final, qu'est-ce qu'elle veut au fond d'elle? Elle veut pas fauter. Elle veut pas qu'il faute. Mais c'est exactement l'exemple que donne le Zohar par rapport au Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il veut nous faire fauter. Enfin, le Yetzer Hara, il essaye de nous faire fauter et il mettra tous ses atouts pour nous faire fauter. Mais au fond de lui, il aimerait qu'on faute pas parce que c'est un sujet du roi. Et il aimerait qu'on faute pas. Donc finalement, qui c'est qui paye au bout du compte?
C'est
moi.
Donc au fond de lui, il est bien.
Donc finalement, c'est quoi le problème? Moi, je suis croyant au fond de moi. Au fond de moi, je suis croyant. Le Yetzer Hara lui-même, il est croyant. Seulement quoi? On lui a donné une mission de se faire passer pour un incroyant. Et moi, je plonge et je deviens incroyant comme lui. D'accord? Ça, c'est le pchat. Donc, tout ça pour dire quoi? Que des fois, quand on n'a pas le choix, il faut se couper. Donc, la semaine prochaine, lundi prochain, il y a le Yutet qui se lève. Yutet qui se lève, c'est le Rosh Hashanah de la Chassidout. C'est le moment où on termine tout le Tania. Donc c'est, j'enverrai par SMS les informations. C'est organisé au théâtre Mogador. Ce sera le lundi soir. Donc on va devoir pas repousser le cours. Au contraire, il faut y aller. Il y a plusieurs qui y vont, c'est très bien.
Inra, non?
Voilà. Et on s'arrête.
J'aime ton accent.